Le 11 septembre 2001, le monde entier a regardé avec étonnement, avec effroi, avec stupéfaction, les deux tours qui se sont effondrées à New York suite à ce qu'on a étiqueté comme étant une attaque terroriste. D'ailleurs, le peuple américain a été marqué par cette attaque. Ce peuple est resté frustré et humilié d'ailleurs, parce qu'il a considéré comme étant véritablement un affront à cet honneur national. C'est une manière de comprendre peut-être un peu, et un peu seulement, les sentiments du peuple hébreu lorsque le temple de Jérusalem a été détruit. Le temple de Jérusalem qui était véritablement un lieu de vénération, le symbole national, l'image même de la nation juive, ce temple a été détruit. Et on peut imaginer à quel point ce peuple a été humilié, affecté par la destruction de ce temple. En effet, le 17 ou le 18 août 586 avant Jésus, Nébuchadnetsar est entré dans la ville de Jérusalem et il a détruit le temple. Lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament, il nous est dit dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 25, que cette destruction a eu lieu le 7e jour du 5e mois. Maintenant, si vous regardez dans Jérémie, chapitre 52, où ce récit est apporté, vous apprenez que le temple a été détruit le 10e jour du 5e mois. Ce que les historiens comprennent, c'est que Nabuzaradan, qui était le chef de l'armée de Nébuchadnetsar, est entré dans la ville le 7e jour du mois et le 9 ou le 10e jour, il a détruit la ville. En réalité, d'après le calendrier juif, ça correspond au 9e jour du mois de Av. Ce 9e jour est encore retenu aujourd'hui comme un jour de célébration pour le peuple juif. Célébration triste d'ailleurs de la destruction du temple de Jérusalem. Mais Dieu avait averti son peuple. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 7, se trouve un passage que j'aimerais regarder avec vous, où Dieu avait averti son peuple. Jérémie, chapitre 7, au verset 4, il est écrit ceci. « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Et le texte continue en parlant de toutes les conditions qui seraient nécessaires à remplir pour conserver la protection de Dieu. Un peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 12, il est dit « Allez donc au lieu qui m'était consacré, à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai ainsi parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères de la même manière que j'ai traité Silo. » Jérémie, de la part de Dieu, avertit le peuple en le disant « Ne placez pas votre confiance dans le temple. Si vous ne mettez pas votre vie en harmonie avec les principes de Dieu, si vous ne vivez pas d'une manière conséquente, je traiterai le temple de la même manière que j'ai traité Silo. » Alors regardons dans le premier livre de Samuel ce qui s'est passé à Silo. Premier livre de Samuel au chapitre 4. Là encore, Dieu avait averti. Et vous connaissez l'histoire du petit Samuel dans le temple qui entend Dieu, qui lui parle. Par cet enfant, Dieu avait averti le sacrificateur. Il nous est rapporté dans 1 Samuel, chapitre 4, lisons au verset 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. L'arche est prise. Et on comprend en lisant le texte qu'à ce moment-là, les Philistins ont détruit la ville de Silo, l'ont brûlée. que le temple qui avait été construit dans le désert par Moïse a été détruit en même temps. Mais l'arche a été protégée, nous dit le texte. L'arche a été prise par les Philistins. C'était un échec retentissant et humiliant pour le peuple d'Israël. En réalité, ce qui s'est passé à Silo à ce moment-là était peut-être ce que l'on pourrait considérer comme la première destruction du temple. En tout cas, du temple du désert, construit par Moïse. Maintenant, ce temple qui avait été construit par Salomon, après la déportation, a été reconstruit. C'est l'époque de la restauration d'Esdras, de Néhémie, sous la direction du gouverneur Zorobabel. On va reconstruire le temple. C'est le deuxième temple, comme on l'appelle. Le temple dans lequel Jésus, d'ailleurs, est allé. Le temple dans lequel Jésus a enseigné. Le temple dans lequel Jésus a accompli ses miracles. C'est ce temple-là. Mais Jésus avait aussi averti que ce temple allait être détruit. Regardez dans l'évangile de Luc au chapitre 21 et au verset 20, comment Jésus s'adresse au peuple de son temps. Évangile selon Luc, chapitre 21, au verset 20, il est dit ceci. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. » Avertissement de la destruction prochaine de Jérusalem. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, au verset 15, se trouve encore un passage parallèle où Jésus avertit ses contemporains de ce qui va arriver. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, au verset 15, il est dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » On comprend par ce texte que la prophétie de Daniel, au chapitre 9, va s'accomplir, dit Jésus, avec la destruction de la ville et la destruction du temple, des lieux saints. Jésus avait averti son peuple, et en effet, en l'an 70, en réalité 39 ans, tout juste après la mort de Jésus, des armées romaines sont venues, elles ont fait le siège de Jérusalem sous la direction du général Titus. La ville a été prise et le temple a été détruit. Le temple a été détruit le 8 septembre de l'année 70. Maintenant, la date équivalente dans le calendrier juif se trouve être le 9e jour du mois de Av. Autrement dit, le deuxième temple a été détruit exactement le même jour que le premier temple. Le 9e jour du mois de Av. Et il est difficile d'imaginer que Dieu n'ait pas mis sa main dans cette coïncidence de date. Sans aucun doute, Dieu a voulu parler à son peuple. C'est la raison pour laquelle le peuple hébreu, aujourd'hui encore, lorsqu'il célèbre ce jour particulier du 9e jour de Av, pleure en réalité la destruction des deux temples qui étaient construits à Jérusalem, parce qu'ils ont été détruits le même jour. En réalité, le deuxième temple a été détruit, encore une fois, pour la même raison que le premier. Regardez dans le livre de Jérémie au chapitre 17, à la fin du verset 24, Jérémie, chapitre 17, verset 24. Le prophète, parlant de la parole de Dieu, s'adresse au peuple. Jérémie, chapitre 17, verset 24. Il est dit ceci. « Si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée et de la montagne du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. » parce qu'ils n'ont pas observé la loi de Dieu, parce qu'ils n'ont pas respecté le sabbat. Et comprenez bien entendu qu'au-delà du sabbat, il y a toute l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Toute cette alliance qui invitait le peuple à vivre selon le mode d'emploi que Dieu lui avait donné, le sabbat n'étant jamais que le signe de cette appartenance, le signe de cette alliance. « Souviens-toi, disait le commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Ils n'ont observé ni le sabbat ni les autres commandements. Et finalement, Dieu n'a pas permis que cette ville soit habitée toujours, qu'elle soit au contraire détruite, et que le temple soit aussi détruit. Est-ce que Dieu a voulu parler par la coïncidence de ces deux dates pour la destruction du temple de Jérusalem? Est-ce que Dieu veut parler encore aujourd'hui par la destruction du temple de Jérusalem et par cette date? Je crois effectivement que Dieu a continué à parler au peuple et aux croyants. 9 ans après la destruction du temple, en l'an 79, s'est produite une éruption violente du Vésuve dans le sud de l'Italie. Par cette éruption surprise, qui a eu lieu le 24 août 79, la ville de Pompéi, d'Herculanum et de Stabia, ces villes ont été détruites entièrement et d'une façon rapide. Dio Cassius, un historien romain de l'époque, raconte d'une manière apocalyptique ce qu'il a vu ce jour-là. Il parle d'un tonnerre assourdissant dans les cieux et d'un tonnerre assourdissant dans la terre. C'était le tremblement de terre. Il parle de la montagne qui explose et qui jette des pierres sur la ville. Il mentionne une grande quantité de feu qui sort de la montagne et qui s'abat sur la ville. Il mentionne une fumée énorme, au point qu'on se serait cru en pleine nuit, comme si le soleil avait été éclipsé. Des ténèbres profondes se sont abattues en plein jour sur la ville. Lui-même se croyait en train de mourir. Il était convaincu que c'était la fin du monde. Et il mentionne assez tôt dans son témoignage quelque chose d'intéressant. Il dit « Cette éruption volcanique a détruit le temple d'Isis, le temple de Neptune, le temple de Jupiter et de tous les autres dieux. » Et dit-il, une forte, violente odeur de soufre s'est répandue dans la ville. Les ruines de cette ville sont bien conservées, parce que précisément, la ville a été engloutie par les cendres et par les laves volcaniques. On peut aujourd'hui visiter cette ville. On peut même retrouver des moulages, des corps qui ont été ensevelis dans la lave. Ce qui rend cette ville intéressante, en tout cas à mes yeux, dans le contexte de ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une petite inscription que l'on a trouvée dans une maison. Une maison comme toutes les autres. Ce n'était pas un palais, ce n'était pas une maison de riches. Mais dans une maison, sur un mur, étaient écrits deux mots, Sodome, Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Pourquoi ces deux mots? Les historiens comprennent qu'en réalité, après que la ville a été détruite, certains juifs en particulier qui habitaient dans cette ville sont retournés dans leur maison pour essayer de voir s'ils pouvaient récupérer quelque chose. Et l'un d'eux a écrit sur le mur de sa maison « Sodome et Gomorrhe ». Dans son esprit, il était clair que l'événement des jours précédents était à relier avec ce qui s'était passé à Sodome et Gomorrhe des siècles auparavant. Sodome et Gomorrhe. Pompéi était renommée comme une ville de plaisir, une ville de vacances, une ville romaine de villégiature. Sodome et Gomorrhe. Le lien a été fait entre ces deux événements déjà à l'époque par les gens qui l'ont vu. Mais le lien est encore plus impressionnant lorsque l'on traduit la date de cet événement dans le calendrier juif. L'éruption du Vésuve a eu lieu le 24 août de l'année 79 de notre ère, ce qui correspond au 9e jour du mois de Av dans le calendrier juif. C'est-à-dire en réalité le même jour où le temple de Salomon a été détruit et où le temple de Zorobabel a été détruit. Déjà à cette époque, le lien a été fait entre ces destructions du temple et le jugement de Dieu sur cette ville romaine le même jour, avec des années de différence. Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui par ces coïncidences de date? Aujourd'hui comme autrefois, personne ne veut entendre parler de malheurs et des jugements de Dieu. Personne ne veut entendre de mauvais discours et des annonces dramatiques ou apocalyptiques. Personne ne veut entendre parler de jugement de la part de Dieu. Et aujourd'hui encore, dans notre monde moderne, on est prêt à lapider les prophètes de malheur. Et même ça dans un contexte non chrétien et non croyant. Laissez-moi simplement vous donner un exemple contemporain. Aquila est une petite ville des Abruzzes qui se trouve à quelques kilomètres au sud de Rome. Et le 6 avril 2009, c'est assez récent, un tremblement de terre de 6,3 sur l'échelle de Richter a secoué cette ville. 308 personnes sont mortes et 30 000 sont restées sans logement. Ce qui rend ce tremblement de terre particulier, c'est qu'un séismologue avait averti que ce tremblement de terre allait avoir lieu. Cet homme s'appelle Giampaolo Giuliani, qui est un séismologue qui travaille dans le laboratoire Gran Sasso, avait averti qu'un tremblement de terre important allait avoir lieu dans peu de temps. Il avait d'ailleurs lui-même mis au point certains moyens pour mesurer le danger et il avait été en mesure d'avertir les autorités de ce qui allait se produire. Maintenant, la personne qui était responsable de la sécurité de la ville a réagi à ce que cet homme a publié dans les journaux. Il a été interviewé et on a publié aussi dans les journaux la réaction de cet homme responsable de la sécurité dans l'endroit. Et il a dit ceci, en parlant de Giuliani, il a dit « Cet imbécile qui s'amuse à diffuser des fausses informations pour faire peur aux gens ». Quelques jours après, le tremblement de terre avait lieu, 308 personnes sont mortes. Aujourd'hui encore, nous avons cette même réaction. Nous ne voulons pas entendre les prophètes de malheur, nous ne voulons pas entendre parler de catastrophes, nous ne voulons pas entendre parler encore moins de jugement de Dieu. Et pourtant, le monde d'aujourd'hui est remué, secoué de part en part par de multiples cataclysmes que les gens ne s'expliquent pas non plus. Et les gens disent « La nature est détraquée, le monde ne va plus comme avant ». Écoutez ce commentaire écrit en 1892. Les signes les plus surprenants apparaissent. Des inondations, des cyclones, des tornades, des accidents mortels sur terre et sur mer. Ils annoncent l'approche de la fin de toutes choses. Les jugements de Dieu tombent sur le monde pour que les hommes prennent conscience que la venue de Jésus se produira bientôt et de manière rapide. Le Seigneur est sur le point de révéler la différence entre les justes et les injustes. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra point. Et un peu plus loin dans le même texte, il est dit « Le temps vient qui mettra chacun à l'épreuve. Une alliance apostate exigera des fidèles à Dieu qu'ils renoncent à la loi de Jéhovah et rejettent la vérité de sa parole. » On considère que les catastrophes que l'on voit dans le monde aujourd'hui sont simplement les caprices de mère nature. En réalité, ce sont les signes des temps. Et curieusement, dans ce commentaire, les signes des temps mentionnés sont reliés au fait que l'on voudra abandonner la loi de Dieu et, par cela même, imposer à ceux qui l'observent de la délaisser. Les signes des temps aujourd'hui sont évidents et cependant, nous avons l'impression que le monde, et même le monde chrétien, vit dans l'insouciance. Ce n'est pas nouveau. Nous pouvons le lire déjà dans l'Évangile selon Luc. Et je vous propose de regarder ce texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17. Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 28. « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. On pourrait penser que nous apprenons les leçons de l'histoire. Même pas. Jésus d'ailleurs avait averti que nous n'allons pas apprendre les leçons de l'histoire. Il en sera de même lorsque Jésus va revenir qu'au temps de Noé, qu'au temps de Lot, où le monde va vivre dans l'insouciance malgré la multiplication des signes des temps. Et il est difficile aujourd'hui de ne pas les voir. Que ce soit dans le monde naturel, social ou politique, les signes des temps sont évidents. C'est la raison pour laquelle je crois que la prédication du jugement de Dieu fait partie intégrante du message que l'Église doit donner au monde d'aujourd'hui. Sans aucun doute, l'Évangile de Jésus-Christ. Mais si l'on ne craint pas le jugement de Dieu, on n'a pas besoin d'un sauveur. Et si on n'a pas besoin d'un sauveur, c'est là qu'on est en danger. C'est pourquoi la prédication du jugement dans le monde d'aujourd'hui fait partie de la vérité présente que le monde doit entendre. Et en réalité, il y a une raison pour laquelle on ne veut pas entendre parler des jugements de Dieu. Il y a une raison bien claire. Et l'histoire nous rappelle cette raison. Je reviens en arrière sur ce que nous avons vu tout à l'heure par rapport à la destruction des temples. Remarquez bien une chose, que ce soit à Silo ou pour la destruction des temples suivants, l'arche contenant les deux tables de pierre où Dieu avait écrit de son doigt les 10 commandements n'a jamais été détruite. À Silo, le sanctuaire du désert a été détruit, la ville a été brûlée, mais les Philistins ont pris l'arche et sans savoir l'ont protégée. Lors de la destruction du temple de Salomon, l'arche a aussi été protégée. Écoutez ce commentaire écrit par Ellen White dans Prophète et Roi. Parmi les justes qui se trouvaient encore à Jérusalem et qui connaissaient les desseins de Dieu, quelques-uns étaient déterminés à placer hors d'atteinte des mains impitoyables de l'ennemi l'arche sainte contenant les tables de pierre sur lesquelles étaient gravés les préceptes du Décalogue. Ils réussirent à mettre leur projet à exécution. Tristes, versant des larmes, ils enlevèrent secrètement l'arche et la cachèrent. Elle devait rester là, dans cet endroit, ignorée du peuple d'Israël et de Juda à cause de leurs péchés. Et elle ne serait plus jamais restituée. Cette arche sainte est toujours cachée. Elle n'a jamais été déplacée depuis lors. Autrement dit, Dieu a permis que les temples successifs soient détruits les uns après les autres, à la même date en plus. Mais l'arche contenant la loi de Dieu a toujours été protégée. C'est comme si Dieu disait « Vous n'en voulez pas de ma loi, eh bien c'est bien, je vais la cacher, la mettre de côté, jusqu'au jour où vous prendrez conscience de sa valeur. » En effet, la loi de Dieu est éternelle. Les temples vont passer. Les rituels qui y sont associés vont aussi passer, mais la loi de Dieu est éternelle. En réalité, refuser à Dieu le droit de juger, c'est en fait tout simplement refuser sa loi. Pas de loi, pas de jugement. C'est aussi simple que ça. Et c'est la raison pour laquelle on ne veut pas entendre aujourd'hui parler de jugement de Dieu. Parce qu'on voudrait que sa loi soit périmée. Notez bien, on veut bien accepter un bon Dieu qui pardonne. On veut bien accepter un bon Dieu qui fait le sacrifice pour que nous soyons délivrés du péché. On veut bien un bon Dieu qui prend notre place, qui prend sur lui la condamnation pour nous en sortir. Mais on ne veut pas un Dieu qui nous rend responsables. On ne veut pas un Dieu à qui on devra rendre des comptes. Pourtant, encore une fois, dans le Nouveau Testament, et pas n'importe où, dans l'Épître aux Romains, il nous est rappelé au chapitre 14, « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Je crois que le Seigneur cherche à attirer l'attention de l'humanité sur son temple. Et non pas tant sur les temples qui ont été sur terre que sur le temple, le seul qui reste, celui qui est dans le ciel, où se passe maintenant un événement extrêmement important, le jugement, justement. Attirer l'attention de l'humanité sur ce dernier événement avant le retour de Jésus. La loi de Dieu est éternelle. Beaucoup n'en voudraient pas. Et cependant, je crois que la parole de Dieu nous invite à nous préparer au jugement de Dieu. Alors, comment être prêt? L'apôtre Pierre, d'ailleurs, interpellait ceux qui lisaient sa lettre à propos du jugement. Regardez dans la première épître de Pierre, ce qui est écrit au chapitre 4. Première épître de Pierre, chapitre 4, au verset 17. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? L'apôtre Pierre interpelle ses lecteurs et leur dit « N'oubliez pas que le jugement commence par ceux qui ont fait alliance avec Dieu. » On ose à peine imaginer ce qui arrivera à ceux qui n'ont pas accepté que Dieu soit leur sauveur. Ainsi, j'aimerais vous proposer d'une façon très simple deux choses pour se préparer au jugement de Dieu. La première, j'aimerais la lire avec vous dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61. Ésaïe, chapitre 61. Au verset 10, il est écrit ceci. « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. » Certains ont dans leur version de la délivrance. Revêtu du manteau du salut. En réalité, être revêtu du manteau du salut, c'est avoir accepté Jésus comme notre Sauveur. C'est avoir accepté de faire alliance avec lui par le baptême. C'est avoir accepté que Jésus soit notre substitut, qu'il soit notre avocat. En réalité, avoir accepté ce manteau, pour reprendre l'image biblique de la justice de Jésus, c'est avoir accepté qu'il soit notre justice parce que nous ne le sommes pas. C'est en réalité être sauvé. Et je vous pose la question ce matin, est-ce que vous avez accepté d'être revêtu du manteau de la justice de Jésus, pour reprendre l'image de l'Ancien Testament? Est-ce que vous avez accepté que Jésus soit votre substitut, qu'il soit votre sauveur personnel? Est-ce que vous avez accepté d'être sauvé en Jésus-Christ? C'est, je crois, la première chose à faire pour se préparer au jugement de Dieu. Et pour ne pas avoir à le craindre, parce que dans ce jugement, nous dit le texte, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Avez-vous accepté Jésus comme votre avocat? La première chose à faire pour se préparer au jugement, c'est être sauvé. La deuxième chose à faire, c'est rester sauvé. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent « une fois sauvé, toujours sauvé », qui est une manière en réalité très subtile de refuser le jugement de Dieu, d'enlever à Dieu ce droit de juger l'humanité, ce qui est une manière subtile finalement de détruire la loi de Dieu. Or, cette loi est éternelle, elle est permanente, Dieu l'a préservée et il veut l'introduire dans nos cœurs. C'est la raison pour laquelle, pour nous préparer au jugement, il y a deux choses à faire. Être sauvé, rester sauvé. Lisez avec moi dans l'Épître aux Romains au chapitre 2, ce que l'apôtre Paul écrit au verset 7. Épître de Paul aux Romains, chapitre 2. Nous lirons dès le verset 5 pour avoir le texte en entier. Il est dit ceci. Par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. La persévérance à bien faire. C'est cela, rester sauvé. Persévérer dans l'alliance que Dieu nous a donnée. Et vous entendez là un texte que vous connaissez bien dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, où il nous est dit que ceux qui persévèrent sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui sont enracinés dans cette foi en Jésus-Christ. La persévérance dans l'obéissance aux commandements de Dieu, et nous retrouvons là le rôle important de sa loi pour nous conduire, pour diriger nos vies, pour nous placer dans une situation où il peut accomplir ce que lui seul peut accomplir dans nos vies, la restauration de l'image de Dieu. Comment se préparer au jugement? Être sauvé, rester sauvé. Jésus nous avait donné, par l'intermédiaire de Luc, une promesse et un encouragement qui est encore pour nous aujourd'hui. Jésus disait, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. » Amen.